de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons la réflexion sur la culture générale. Je rappelle que je m'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse à Paris et qui est toujours disponible en librairie. Alors, nous en sommes au chapitre 4 de cet ouvrage qui est consacré au langage symbolique. En très gros, je résume tout ce que nous avons dit depuis le début de cette série d'émissions. La culture est faite de constructions symboliques qui finalement obtiennent l'adhésion des hommes, les fédèrent, les constituent en peuple à partir des foules disciplinées qu'ils étaient, ces hommes-là, jusqu'à présent. Alors, ces constructions symboliques règnent dans l'esprit des hommes, elles sont parfois critiquées par la raison qui s'éveille justement à la faveur de la paix produite par les constructions symboliques et qui va se mettre à les critiquer, les réévaluer et éventuellement les détruire. Alors pour bien défendre ces constructions symboliques, que nous devons alors prendre non pas comme un héritage, mais comme matière à une formation personnelle, c'est l'opposition entre la Kultur des Allemands, l'héritage subi, et la Bildung, la formation individuelle, eh bien, pour bien comprendre ces constructions symboliques, pour leur éviter la destruction par l'intelligence dissolvante, eh bien, il faut comprendre leur langage. Il faut savoir comment elles fonctionnent, comment elles ont été édifiées, d'une part, bien sûr, et d'autre part, quel en est le vecteur. C'est pour cela que nous analysons maintenant le langage symbolique, ses composantes et ses caractéristiques. Alors, j'ai pris quelques exemples déjà lors des émissions précédentes. Nous avions parlé de la Genèse, par exemple, dans la Bible, juive et chrétienne aussi. Hein. Nous avions vu l'histoire d'Abel et Caïn. Nous avions vu aussi l'histoire d'Adam et Ève. Alors, je vais insister maintenant sur précisément cette histoire d'Abel et Caïn. Il y a chez l'homme un désir de rationaliser ce qu'il lit, et ce désir passe souvent à côté du langage symbolique. Cette histoire de Caïn, que l'on trouve dans la Genèse, on l'a simplifiée de façon extrêmement manichéenne pour justifier la colère et la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle un souci de théodicée, c'est-à-dire la justice de Dieu. Et ce souci de théodicée est un souci de logique qui ne tient aucun compte de la complexité du langage symbolique. Que nous dit ce texte? D'abord, on nous dit que c'est Caïn qui a fait son offrande le premier et Abel ensuite qui lui a emboîté le pas. Caïn a donc eu l'idée de l'offrande et Abel, comme pour ne pas être en reste, eh bien, a fait une offrande à son tour. Le texte, en outre, ne dit pas que Caïn a de mauvaises pensées, que Dieu saurait lire. Il dit seulement, le texte, que Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Objectivement, Dieu fait une injustice à Caïn, et Caïn a toutes les raisons d'en vouloir à Dieu, dont la préférence n'est absolument pas justifiée. Mais alors, là-dessus, on va développer un catéchisme. On va apprendre aux enfants qu'Abel est bon et Caïn est méchant. Donc Dieu a eu raison de préférer l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Notez que dans la liturgie de la messe catholique, par exemple, lors de l'offrande eucharistique, il est fait mention d'Abel le juste. Accepte cette offrande comme tu as accepté celle d'Abel le juste. Cet Abel le juste, que l'on retrouve aussi, je crois, dans les épîtres pastorales, c'est une fiction, hein. Ce n'est pas conforme du tout à ce que dit le texte. Voici, par exemple, une façon logique et simplificatrice de voir le texte, elle est due à Daubigné dans Les Tragiques, au chant 6 des Tragiques. Je lis, Ainsi Abel offrait en toute conscience sacrifices à Dieu. Caïn offrait aussi. L'un offrait un cœur doux, l'autre un cœur endurci. L'un fut au gré de Dieu, l'autre non agréable. Caïn grinça des dents, pâlit, épouvantable. Il massacra son frère, et de cet agneau doux, il fit un sacrifice à son amer courroux. Vous voyez ? Alors, Daubigné inverse complètement le texte biblique. D'abord, il dit « c'est Abel qui offre l'offrande le premier », alors que c'est faux, hein, Caïn lui emboîtant le pas. C'est exactement le contraire. D'autre part, Daubigné présuppose la méchanceté de Caïn et la bonté d'Abel. L'un offrait un cœur doux, l'autre un cœur endurci. Donc cela justifie la préférence de Dieu, hein. Et finalement le texte de Daubigné est un texte totalement manichéen qui noircit Caïn. Alors bien sûr il faut le voir dans le contexte des tragiques où il s'agit justement de défendre les protestants contre les catholiques. Bien sûr il y a une volonté militante du poète Agrippa Daubigné dans son utilisation du texte biblique, mais le texte biblique se trouve totalement aplati. Parce qu'en réalité, dans cet épisode, les choses sont très complexes. Si on y réfléchit bien, tout le monde est fautif dans cette histoire. D'abord Dieu, parce qu'il a fait une injustice à Caïn. Ensuite Adam et Ève, parce qu'ils ne sont pas là pour intervenir quand l'animosité s'élève entre les deux frères. Vous voyez, hein? Regardez les parents, par exemple. Quand deux enfants se disputent, le rôle des parents, c'est d'intervenir et de dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qui a commencé, etc. Hein, bon, non, là, Adam et Ève sont absents de l'épisode. Et peut-être que Abel aussi est fautif, parce qu'il ne répond pas aux tentatives d'explication de Caïn, avant que Caïn ne se dresse contre lui et ne le tue, puisque le texte porte « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. » Et puis, pas de réponse d'Abel. Alors qu'ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre Abel et le tua. Mais Caïn essaie jusqu'au bout d'avoir des informations. Il essaie, justement, d'entamer un dialogue avec son frère, voyez. Et Abel, qui peut-être se sait être le préféré de Dieu, ben non, il tourne le dos et il se moque, justement, de cette dernière tentative faite par Caïn. Alors, vous allez me dire, quelles sont les deux fautes de Caïn? Je pense qu'elles sont les suivantes. Premièrement, la faute de Caïn, c'est d'avoir désespéré trop vite et de ne pas avoir fait une seconde offrande, la première n'ayant pas été agréée. Et Dieu là-dessus l'avait prévenu, hein. Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas, hein. Mais si tu n'agis pas bien, méfie-toi, le péché est déjà tapis à ta porte. Donc, Caïn s'est découragé trop vite. C'est pas parce qu'une chose n'a pas marché une fois qu'il ne faut pas continuer et essayer une autre tentative. La deuxième faute de Caïn, c'est d'avoir menti en ne reconnaissant pas qu'il avait tué Abel, puisque Dieu qui sait tout lui pose une question, non pas pour savoir quelque chose, mais pour le mettre en situation de responsabilité. Caïn, où est ton frère Abel? Vous voyez, hein? Donc c'est une question symbolique, c'est pas une question réaliste. Dieu sait ce qui s'est passé. Il veut pousser Caïn à avouer quelque chose. Et alors là, Caïn a tort, bien sûr, parce qu'il dit « Je ne sais pas où il est, suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez. Donc, mais ce sont les deux seules fautes que je vois dans le cas de Caïn, hein. Tout le reste me semble surajouté par interprétation moralisatrice et catéchétique appartenant au catéchisme. Donc si on simplifie ce texte pour le rationaliser, on l'ampute. Et surtout, les simplifications du catéchisme appellent, et je dirais légitiment, les simplifications en sens inverse d'une pensée qui serait voltairienne, ou bien positiviste, ou bien athée. Hein. Et c'est ainsi que meurent les symboles et qu'adviennent les désymbolisations, que j'analyse longuement dans mon ouvrage. Hein. Il est facile de se moquer d'un texte que l'on sent comme simple ou simpliste. Il n'offre guère de résistance et peut-être d'intérêt. Donc, contre les versions du catéchisme, les écrivains qu'on a appelés caïnistes, je pense au XIXe siècle, à Vigny, à Le Comte de Lille, à Baudelaire, eh bien, ces écrivains-là vont prendre le parti de Caïn, contre celui d'Abel. Et ces lectures inversées sont aussi soutenables à leur niveau d'analyse et dans leur ordre que les lectures édifiantes. Ainsi, Vigny disait, Vigny, je vous signale, c'est le seul poète radicalement athée de la génération romantique. Vigny disait que Dieu avait préféré le fainéant pasteur au courageux laboureur, vous voyez. Et alors on pourrait même dire, si l'on était voltairien, que Dieu, de façon strictement rationnelle, n'a aucune raison de condamner le crime de Caïn, puisque comme aucun meurtre n'avait eu lieu auparavant, Caïn ne pouvait pas savoir ce que c'était que tuer. Il ne peut donc y avoir de premier meurtre. Le fameux premier meurtre ne peut être tout au plus qu'un accident. Alors vous voyez, cette interprétation serait voltairienne, pas profonde du tout, bien sûr, mais disons que un esprit en réaction contre le catéchisme, je dirais bondieusard, un esprit, voltairien ou athée, si vous voulez, pourrait défendre cette option. Alors vous voyez que moraliser un texte qui est hautement symbolique comme celui-là, c'est méconnaître son ambiguïté profonde. Ce texte est bien plus complexe, par exemple, que le meurtre de Rémus par Romulus dans la mythologie romaine, car dans ce cas-là, il y a une explication simple à l'acte du meurtrier. Rémus, par dérision, avait franchi le sillon tracé par Romulus pour marquer l'enceinte de Rome. Alors, vous voyez que la pensée symbolique est très souvent complexe, ambivalente, et pour éviter de la réduire, comme font souvent aussi bien ceux qui prétendent la défendre que ceux qui veulent l'attaquer, il faut éviter de vouloir y mettre de l'ordre et de la logique. Alors, je sais bien que c'est humain, l'esprit aime à trouver des explications aux choses, mais c'est dangereux. Parce que quand on a commencé à s'éloigner d'une chose, on se détache plus vite si elle a été expliquée une fois pour toutes. Et de toute façon, si on analyse le langage symbolique en profondeur, ce que l'on perdra peut-être en sécurité, on le gagnera toujours en épaisseur, en richesse et en lucidité. Et ainsi, pour maintenir la complexité et l'ambivalence des productions symboliques, méfions-nous des explications toutes faites et transmises par l'héritage. Ici, nous pouvons reprendre nos notions initiales, exactement ce que j'ai dit en début de cette émission. Toute culture personnelle ou acquise par réflexion, c'est-à-dire la Bildung, doit se déprendre, se délivrer des conditionnements et des catéchismes qui sont hérités, ce que l'on appelle en allemand la Kultur. Voilà, alors dans le langage symbolique, il y a plusieurs logiques et toute fréquentation assidue Des productions symboliques nous le montrent. Il n'y a pas une logique, mais des logiques. Prenons d'autres exemples. La logique habituelle définit la justice, par exemple, par l'égalité, éventuellement une égalité arithmétique. Que chacun ait la même chose, voilà la justice. Hein. Mais si vous prenez dans l'évangile la parabole des ouvriers de la vigne, vous voyez que cette parabole montre le contraire. Le maître promet au terme de la journée une somme d'argent à ceux qui travailleront à sa vigne. Alors les ouvriers travaillent depuis le matin, sauf un qui ne se met à travailler qu'une heure avant la fin de la journée. C'est ce que l'on appelle l'ouvrier, c'est lui que l'on appelle l'ouvrier de la dernière heure. Alors tous les ouvriers à la fin de la journée vont trouver enfin le maître pour percevoir leur salaire. Et le maître donne la même chose à tous. Ceux qui ont travaillé toute la journée se plaignent. À l'un d'eux, le maître demande « Combien est-ce que je t'avais promis ?» L'autre répond « Telle somme. » « Combien t'ai-je donné ?» dit le maître. L'autre répond « Cette somme. » « Donc, répond le maître, je t'ai donné ce que je t'avais promis. Je ne te fais pas d'injustice. » Vous voyez, en grec, « ouk adiko se ». Je ne te fais pas d'injustice. Alors, on ne nous lèse pas si on nous donne ce que l'on nous a promis, même si on donne la même chose à un autre hein, dont on pense qu'il ne la mérite pas. Prenons l'exemple d'un gâteau. Si nous obtenons dans ce gâteau une part qui nous rassasie, nous n'avons plus faim après avoir mangé notre part, pourquoi nous plaindre que le voisin en ait autant, vous voyez ? Pourquoi tout soumettre au calcul, à la proportion supputée ou postulée hein ? Mais pourtant, la proportion, c'est la raison. Proportio en latin et ratio ont la même racine. Hein. Mais en vérité, le monde excède les raisons. Hein. Il excède la ratio latine ou bien le logos grec, le monde. Hein. Alors pourquoi limiter le possible ? Pourquoi ne pas faire la part de l'arbitraire hein, ou du don dans les relations humaines ? Alors on dit que la parabole des ouvriers de la vigne symbolise le cas de celui qui se convertit au dernier moment et qui peut gagner le ciel tout autant que ceux qui ont été justes dès le début. Mais je pense qu'il faut prendre garde à ne pas trop rationaliser, ce qui invite à l'interrogation, à la remise en question de la façon ordinaire de penser. Je pense que nous devrions réexaminer toute l'importance que nous accordons ordinairement au mérite individuel, au prévisible ou au mesurable. Pensez aussi à la fameuse brebis égarée de l'évangile. Hein. Cette brebis réjouit le berger lorsqu'elle est retrouvée, bien plus que la présence des autres qui n'ont pas été perdus. Alors, c'est bien sûr aussi le thème de l'histoire que tout le monde connaît de l'enfant prodigue. Hein. L'enfant qui revient repentant après avoir gaspillé sa part d'héritage est embrassé par son père et il est pardonné par lui. Alors, bien sûr, il y a une jalousie du frère aîné qui, lui, n'a pas quitté son père pour aller gaspiller son héritage. Et bien sûr, cette jalousie se comprend. Bien sûr, tuer le veau gras pour un enfant qui a été ingrat peut être choquant et même peut être considéré comme injuste. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut penser ? L'histoire veut nous dire qu'il y a quelque chose de plus que la justice. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est le don ou le pardon, vous voyez ? Toute la justice humaine tombe dans cette histoire symbolique. Trop de justice tue la justice, hein, comme on dit en latin « corruptio optimi pessima », c'est-à-dire la pire corruption est celle du meilleur. Et le droit, chez nous, a retenu cette leçon dans l'adage, toujours formulé en latin « summum ius summa injuria », c'est-à-dire le comble de la justice et le comble de l'injustice. Donc il faut savoir relativiser même la justice, vous voyez. Par exemple, Albert Camus parle à propos de Marx d'un apôtre d'une justice sans tendresse, vous voyez. Alors, on voit bien là l'erreur des calculateurs, des rationalistes étroits, dans leur ardeur à reconstruire le monde. En vérité, plus on fréquente le langage symbolique, plus on est porté à la prudence devant le calcul humain, et plus la pensée close le cède à la pensée ouverte. Alors j'emprunte cette opposition entre pensée close et pensée ouverte au philosophe Bergson. La pensée close, elle se ferme sur des certitudes établies une fois pour toutes, sur des principes, des calculs. Dans la pensée close, tout se quantifie, tout se mesure, tout se mathématise en quelque sorte. Mais la pensée ouverte a une autre logique. Elle voit l'insuffisance des normes et des règles héritées et observées mécaniquement ou machinalement. On peut ainsi être injuste par trop de justice, malhonnête par trop d'honnêteté, infidèle par trop de fidélité. Je pense qu'il y a des gens qui ne font jamais rien de malhonnête dans leur vie et dont la vie entière n'est qu'une malhonnêteté, vous voyez. Et certains agissent honnêtement, mais semblent toujours ne pas en être revenus et paraissent passer leur vie à le regretter, vous voyez. Pareillement pour la fidélité, être fidèle à quelqu'un, c'est autre chose, ou c'est davantage, à mon avis, que ne pas lui être infidèle, parce que ne pas tromper son compagnon ou sa compagne ne nous acquitte de rien. L'important, c'est de rendre l'autre heureux, et ne pas faire ne suffit pas, il faut faire, en quelque sorte. Il y a des gens qui ne trompent jamais leur partenaire, mais dont le comportement entier ne fait que le lui reprocher, vous voyez. Donc l'essentiel, c'est l'ouverture positive du cœur, c'est l'amour. Et être fidèle à quelqu'un, ce n'est pas en quelque sorte, je dirais, laisser les choses en l'état, laisser les choses intactes, mais les rendre augmentées, comme il se voit dans la parabole des talents, que je considère comme une des plus belles paraboles et paroles, c'est le même mot, ayant jamais été écrite. Qu'as-tu fait de ton talent, dit le maître à celui qui n'a pas fait fructifier son talent. Eh bien, le maître n'exige pas la restitution d'un talent à l'identique, talent qui aurait été enterré et que l'on peut rendre tel quel. Mais non, le maître demande justement que le talent ou le don dont on bénéficie soit augmenté par notre propre volonté. Vous voyez, je prends un exemple. Supposons que notre meilleur ami s'en aille au loin, à l'autre bout du monde, et nous confie son fils à garder. Ensuite, cet ami revient vers nous. La fidélité envers cet ami ne consiste pas à rendre cet enfant, je dirais, intact, tel que nous l'avons reçu, mais il faut le lui rendre enrichi, éduqué, élevé, donc le lui rendre différent, vous voyez. Donc je dirais qu'aucun usage ou aucune coutume en soi n'est absolument bon. Et les productions symboliques complexes, si on sait les lire ou si on sait les réinterpréter, montrent toute l'insuffisance de cet héritage ou de cette tradition, cette culture, et invitent justement à un nouveau regard, à une nouvelle formation. C'est-à-dire, toujours, je répète, la Bildung, repetitio mater scientiae, la répétition est la mère du savoir. Prenons la formule, par exemple, évangélique, le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Eh bien, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, on peut dire que Dieu s'est reposé le septième jour de la création, et l'homme pense qu'il ne doit pas travailler le jour du Shabbat. Vous noterez par parenthèse que Dieu étant tout puissant, il n'a aucune raison d'être fatigué et de se reposer le septième jour. Donc, c'est bien d'un texte symbolique qu'il est question ici, voilà. Mais est-ce que cela vaut toujours d'imiter Dieu et de se reposer le jour du Shabbat? Évidemment, ça peut se contester. Est-ce qu'on peut prendre prétexte du Shabbat pour ne pas venir en aide à son prochain? Alors, l'essentiel, c'est le but, la direction vers laquelle pointe cette phrase. Le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. C'est l'homme qui est au centre et non pas l'usage. Et cette parole est éminemment désaliénante. Vous pouvez remplacer le mot Shabbat par tous les dieux aliénants du monde moderne et la formulation aura du sens. Par exemple, l'argent est fait pour l'homme et non pas l'homme pour l'argent. La voiture est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la voiture. Le sexe est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sexe, etc., etc. Dans toute la culture ici, au sens d'usage observé aveuglément, d'observation, de prescription, tout le ritualisme qu'on nous inculque par l'héritage, finalement, vole en éclat, hein, vole complètement en éclat. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il faut sacraliser les funérailles? Eh bien, regardez ce que dit l'évangile chrétien, laissez les morts enterrer les morts, hein, voyez. Est-ce qu'il faut sacraliser l'économie, hein? Voyez l'éloge du gaspillage des parfums chers dans la bouche de Jésus, hein? Vous aurez toujours des pauvres, mais moi, vous ne mourrez pas toujours, hein? L'onction à Béthanie, vous voyez, hein? Est-ce qu'il faut sacraliser l'honnêteté? Voyez la parabole de l'intendant infidèle. Je la lis, cette parabole, hein. C'est Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Il était un homme riche qui avait un gérant, et celui-ci fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le fit venir et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire ma gérance ? Piocher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. » Alors il fit venir un à un les débiteurs de son maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 barils d'huile, lui dit-il. » Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris vite 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, dit-il. » Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua ce gérant malhonnête pour avoir agi de façon avisée. En effet, c'est une malhonnêteté que de diminuer la dette, si vous voulez, hein. Mais cette parabole, même si elle est un éloge objectif de la malhonnêteté, est extrêmement profonde. On peut être malhonnête si c'est pour se faire des amis, pour se socialiser. L'argent est moins important que le tissu des amitiés, les relations humaines que l'on noue. Rien ne tient devant cela. Le grand luxe, disait Saint-Exupéry, ce sont les relations humaines, vous voyez. Donc, il est de la plus haute importance de savoir déchiffrer les langages symboliques, surtout quand ils sont les plus subversifs, les plus surprenants en apparence, hein. Ils invitent à la plus grande prudence intellectuelle, à ce qu'on appelle, à partir du latin, une docta ignorantia, une ignorance savante, hein, supérieure à tous les savoirs. Et il est bon que le symbole, parfois, soit la défaite de la logique. La parabole de l'intendant infidèle, ou du gérant malhonnête, si vous voulez, a occupé Carl Gustav Jung toute sa vie, hein, et une vie ne suffit peut-être pas à la méditer. Donc la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. À son disciple qui lui demandait ce qu'il devait faire, saint Augustin répondit « Aime et fais ce que tu veux ». Diligé et fac quod vis. Alors, c'est une parole très libérante. Il faut la prendre symboliquement. Je dis souvent, attention, ce n'est pas le « vas-y donc, c'est pas mon père » de la môme crevette dans la dame de chez Maxime. Hein, le « M et fais ce que tu veux ». Voilà, eh bien, je vais vous laisser pour cette émission sur cette note humoristique. J'espère qu'elle ne vous choquera pas. Et à la prochaine émission, nous continuerons d'analyser ces catégories de la logique symbolique. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.